Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, les Orechem Tobim et Shanim Nehemim. Nous poursuivons notre étude de la sortie d'Égypte et des Makot. Nous sommes Parashat Bo. Alors, dans cette paracha, comme la valeur numérique du mot Bo l'indique, il reste trois Makot. Ces trois dernières Makot, elles sont particulières. Donc, il y a une question qui se pose. A priori, pourquoi avoir mis dans la paracha de Vaera sept makot et les avoir séparés à une autre paracha, avoir placé trois dernières makot dans une paracha distincte? Alors là, pour répondre à cette question, nous allons voir que il y a la structure, le dévoilement. Nous devons comprendre comment Akadosh Baruch Hu dévoile son nom à travers les Makot. Qu'est-ce qu'il manquait dans la création qui a fait que ce n'est qu'à présent que le monde, que la création va concevoir de manière extraordinaire, va constater la présence du Shem Havaya Baruch Hu. Alors il est dit ici, « Vayomer Hashem el Moshe. » Hashem dit à Moshe, « Bo el Pharaon. » Viens chez Pharaon. Alors viens, le mot « bo » peut signifier, peut être interprété de deux manières. Ou bien, il aurait dû dire, parce qu'il est évident qu'il aurait dû lui dire, « L'er el Pharaon. » Il lui dit, « Bo el Pharaon. » Alors, Bo signifie, ou bien qu'Akadosh Baruch Hu y est déjà, donc rejoins-moi chez Pharaon. Akadosh Baruch Hu est partout, donc Malé, Kolar, Eskevodo, donc il y est déjà. Ou bien ça peut signifier aussi que Bo, viens avec moi, je t'accompagne, accompagne-moi chez Pharaon. Pourquoi ? Ki ani ichbadati et libo v'et lev avadav. Parce que j'ai alourdi son cœur et le cœur de ses serviteurs, les ma'an, shiti ototai et les bekirbo, afin de placer ces prodiges, ces otot, et les cela, bekirbo en son sein. Alors ici, il y a une question, c'est le mot et les. S'il s'agit des makot à venir, alors le démonstratif n'est pas de circonstance. Et les. C'est un démonstratif, donc il doit les montrer. Puisque ces makot ne sont pas encore intervenus, donc pourquoi emploie-t-il le mot elé? Après, il rajoute Ulma'an tesaper beozne bincha ou ben bincha, et asherit alalti be mitzraim, veet ototai asher samtiba, vidatem ki ani adonai. Et là, il rajoute un verset qui, a priori, on ne sait pas à qui il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse à Moshe ou il s'adresse à Amisraël en général, a priori, afin que tu racontes et sa père, Beozne Bincha, à l'oreille de ton fils et de ton petit-fils, et Asher et Alati, tout ce que je me suis joué, Alila, Rachid traduit ça par, il s'est joué des Égyptiens. Alila, c'est comme on dit, El Nora, Alila, Nora. Akadosh Baruch Hu, il est Nora dans ses projets, il est redoutable dans ses prodiges, dans les prodiges extraordinaires qu'il accomplit. Donc il semblerait que le monde agit à sa guise, mais quoi que le monde fasse, c'est toujours Akadosh Baruch Hu qui est celui qui tire les ficelles. C'est-à-dire que quoi que nous fassions, quoi que les hommes fassent, en fait, c'est la Alila, c'est l'idée première, celui qui gère cela, quoi que les hommes fassent, c'est toujours la volonté de Dieu qui se réalise. Et Tacherit Alal Tibé Mitzrayim, donc comme si qu'il disait que Pharaon et les Égyptiens ont fait à leur guise, mais quoi qu'ils fassent, en vérité, c'est. Akadosh Baruch Hu s'est joué d'eux. Ils ont cru qu'ils étaient indépendants ou qu'ils avaient un choix, ils pouvaient contredire Dieu, mais en fait, c'est la volonté de Dieu qui s'est appliquée à eux. Et autotan yacher samtibam, et les prodiges que je leur ai placés, par lesquels je les ai frappés. Et alors il est dit, vidatem ki ani Adonai. Et vous saurez que je suis Hachem. Donc ici, à nouveau, il est répété, ani Hachem. Toutes les makotes ne sont que le dévoilement, sont le but des makotes, la finalité de toutes ces makotes ne sont là que pour que nous prenions conscience, que nous sachions et que nous assimilions le Shem Havaya Baruch Hu. Et c'est ça ce qu'il manque à Pharaon. C'est ça ce que les Égyptiens ne peuvent accepter, ne peuvent concevoir, ne peuvent assimiler. Et cela, il faut remonter à la Parashat Shemot, où il est dit que Mi Hashem Asher, Pharaon dit à Moshe, Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, Lo Yadati et Hashem. Il ne connaît pas. Qui est donc ce Hashem, ce Shem Havaya Baruch Hu, qui m'ordonne cela? Je ne connais pas ce nom. Alors, tout au long de Makot, de l'histoire, nous allons voir que Kadosh Baruch Hu souligne que l'essentiel de tout ceci n'est que le dévoilement du Shem Havaya. Et le Shem Havaya, Kadosh Baruch Hu ne l'a pas dévoilé non plus au Avot. Donc, comme il est dit, qui Vaera, dans Parashat Vaera, Vaidaber Elohim El Moshe. Donc ici, c'est Elohim qui parle. Donc la création du monde s'est produite, a été faite par le Shem Elohim, Bereshit Bara Elohim, et Hashamayim Vetares. Donc il est dit dans la création à 32 reprises, le Shem Elohim, Lev Netivot Chochma, la Chochma s'est exprimée lors de la création avec 32 reprises le Shem Elohim. Donc c'est pour ça qu'au début de Vaera, il dit « Vaidaber Elohim El Moshe ». Et immédiatement, il lui dit « Vayomer Elav », il lui dit « Ani Hashem ». Donc c'est-à-dire que, en fait, le Shem Elohim n'est que l'attribut qui est l'exécutant du Shem Havaya. Donc le monde de la matérialité, dans le monde de la matérielle, c'est le Shem Elohim qui dirige. Mais le donneur d'ordre, celui qui est habillé dans le Shem Elohim, c'est l'exécutant. Elohim n'est que l'exécutant du Shem Havaya Baruch Hu. Voyons, Mère Elav, Ani Hashem. Et ce Ani Hashem, c'est la déclaration de la Géoula. Donc il y a ici un concept particulier qui est qu'en Égypte, Am Israël est en gestation. Le Shem Havaya Baruch Hu est, entre guillemets, comme si qu'il était endormi, qu'il était en devenir. Il n'est pas encore, il est en gestation. Tout comme Israël est en gestation, donc il n'est pas encore venu au monde. Donc de même, le Shem Havaya est intimement lié à l'existence d'Israël, de Am Israël. C'est pour ça que le Shem Havaya n'apparaît pas dans la création. Où est-il fait allusion au Shem Havaya? Il est fait, et où Israël n'existe pas dans la création. Où est-il fait allusion à Israël, au Shem Havaya? Dans le mot Bereshit. Comme si que le Bereshit au commencement, c'est le Reshit, c'est ce qui précède le début de l'histoire. C'est ce qui vient avant, c'est ce qui est antérieur à l'histoire. Donc donc si on veut, c'est le Réchid fait référence à la Torah, comme Rashi le souligne au début de Bereshit. Il fait référence à Israël et il fait référence à Shem Havaya. La Torah ma ad kol haTorah kula shemotav shel haKadosh Baruch Hu. Et le Shem haEtzem de haKadosh Baruch Hu, c'est Shem Havaya, Yod Kei Vav Kei. Donc il y fait référence comme si que c'est l'idée qui précède. Et quand le monde apparaît, Il n'est pas mentionné. Israël, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, dans le système de la création, Israël n'existe pas, puisque Avraham Avinu a dit à Kadosh Baruch Hu, quand lors du Brit Ben Abetarim, Kadosh Baruch Hu lui dit, tu auras une grande descendance, et Avraham lui dit, j'ai vu dans les étoiles, dans les astres, que je n'aurai pas d'enfant. Alors il le sort de ce système, il le sort de sous la voûte céleste, il le place au-dessus. Et il lui dit, Abet na Hashamaim, regarde, observe. Alors le mot Abet signifie de regarder du haut vers le bas, donc il est au-dessus de cela. Et c'est seulement dans ce système-là, différent, qui est au-dessus du système de la nature, sous la voûte céleste, signifie sous le concept de Briat HaOlam. C'est le concept de la création même, de la matérialité. Donc il est en dehors. Avraham Avinu va avoir des enfants dans l'autre système. Et c'est ce qui est marqué ici. Va'era el Avraham el Yitzhak vel Yaakov be'el Shaddai. Alors il faut... Au Shmi Hashem, l'onodat ilayim. Et mon nom, Avaya, je ne leur ai pas dévoilé. Quel est le sens de El Shaddai? Alors le mot Shaddai signifie, comme la Gemara le dit, She'amar le'olamodai, She'meshaded et ta teva. Donc, Kadosh Baruch Hu, il maîtrise les règles et les lois de la nature. Le mot El, c'est la bonté totale et absolue. Alors, Rabbeinu, le Hassid Lutzato, dans son Sefer Adir Mamaron, explique ce concept-là. Et il s'étonne pourquoi le nom El Shaddai, qui a d'ailleurs la même valeur numérique que Moshe, n'est pas mentionné dans Maaseh Bereshit, dans le récit de la création. Alors il dit, le monde, alors il fait, on peut traduire son enseignement de la manière suivante. Le mot El, donc c'est comme si que Akadosh Baruch Hu va procéder à la création des différents éléments qui composent la création, et il va le faire dans son laboratoire. Dans un laboratoire. Le laboratoire, c'est la matrice de la création. Alors dans cette matrice de la création, là où la création va se faire dans la gestation des éléments de la création, il y a deux composants essentiels. Deux acteurs essentiels. D'une part, le Shem Kel, et d'autre part, le Shem Shaddai. Alors, quelle est la fonction du Shem Kel? Le Shem Kel, c'est la bonté totale, la toute-puissance de Dieu dans sa bonté totale. Donc, la toute-puissance de Dieu, ce El, ça veut dire le Dieu tout-puissant. Mais en quoi est-il puissant? Parce qu'il a le pouvoir absolu et la volonté totale de donner la vie. Donc c'est le Shem El qui diffuse les énergies de vie pour chaque élément de la création. Et quand ces énergies de vie voient le jour, alors la bonté étant infinie, donc les éléments se développent sans cesse. Ils peuvent se développer, c'est quand si Dieu dit « je veux créer l'eau », alors l'eau va envahir le monde. Le concept de l'eau, la création de l'eau est telle qu'à travers le Shem Kel, elle est infinie. Donc elle prend toute la place. C'est là qu'intervient le Shem Shaddai, qui met une limite, qui donne une forme et une limite à l'élément que dévoile, aux énergies que le Shem Kel dévoile. Donc c'est la conjugaison de ces deux schémas qui fait la création, qui fait la Beria. Et dans la Kabbalah, par exemple dans les schémas, la Tfila de Shachrit, elle est divisée en quatre parts. Alors il y en a un, la première partie, les Korbanot, sont du niveau du Olam Asiya, le monde de l'action, le monde le plus bas. Puis vient le monde de la transformation, puis vient le monde de la création. Le Shem qui correspond au monde de la création, c'est quand on commence le Yotzer, là c'est le Shem El Shaddai. Donc ce Shem-là, il est au niveau de la création, mais il agit en toute discrétion, puisqu'il agit dans la matrice. Et c'est le Shem Elohim qui est le nom de la matrice elle-même. Donc, le El Shaddai, il travaille dans l'intérieur, à l'intérieur de la matrice. Et le Elohim, c'est la matrice elle-même. Donc, cette matrice, quand elle donne le jour aux différents éléments, donc c'est la nature qui est créée. Mais le Shem Havaya, il est d'une autre nature. Il est d'une autre dimension. C'est-à-dire que le Shem Shaddai, il fait en sorte que chaque élément existe. Il est meshaded le Teva, c'est-à-dire qu'il maîtrise la nature. Mais le Shem Havaya est au-dessus de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nature. Il est d'une autre dimension. Il n'y a pas de nature. Donc c'est cette idée-là qui doit se dévoiler à travers les makot. Maintenant, quand Moshe se présente chez Pharaon et Pharaon n'accepte pas, il ne conçoit même pas qu'est-ce que c'est le Shem Havaya. Quel est son problème? Le problème, c'est que Pharaon, il est au niveau de la matérialité. C'est le Shem Elohim, Elohim, valeur numérique 86. Il y a 5 lettres qui font 120 compositions. C'est-à-dire qu'il y a, 120 compositions du Shem Elohim. Et Pharaon en maîtrise un certain nombre. Donc il maîtrise parfaitement toutes les notions de la nature. Et il les maîtrise de telle manière que l'expansion, quand le Shem Elohim se répand au-delà de ses limites, alors on tombe dans le concept de Elohim Aherim. Donc on détache les énergies et les kohot de leur source. Or, on tombe dans l'excès de rigueur, on tombe dans l'idolâtrie. Et Pharaon, il est au niveau du Oref, il est au niveau de la nuque. Et la nuque, c'est là où doit se situer le Da'at. Donc il a le Da'at, il est au niveau de la conscience, du savoir, de la conception des choses, mais d'un point de vue arrière, de l'arrière des choses. Donc il est au niveau de Elohim Aherim. Et à ce moment-là, le Shem Havaya est en devenir. Donc il est encore en gestation. Puisque nous l'avons dit, il est lié à Israël. Son apparition est liée à Israël. Et ça, Pharaon le ressent. Il sent que les énergies qu'il reçoit, sa vie, la source des énergies dont il est le récipiendaire, ne sont que celles qui lui parviennent du Shem Elohim. Et donc il sent qu'il a un pouvoir total. Donc il ne conçoit pas le Shem Havaya. Et toutes les makot vont être, le but de toutes les makot est justement l'apparition du Shem Havaya dans toute sa puissance. Donc c'est un processus de dévoilement du Shem Havaya. Maintenant, il faut comprendre aussi, ici, nous, dans cette paracha, nous avons dit que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, viens chez Pharaon. Nous allons aller chez Pharaon, qui a nirbadati et libo, parce que je lui ai alourdi son cœur. Ça signifie, nous avons déjà souligné cela, que la arbadat alev, le fait que Pharaon ait le cœur alourdi, ça l'empêche de prendre véritablement conscience de ce qu'est le Shem Havaya. Alors le Shem Havaya, il est l'expression de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la vie. Le Shem Havaya, c'est le verbe être au présent. Ce sont les énergies de vie qui sont diffusées à l'instant donné. Et ça traduit la bonté totale, la volonté de donner la vie. Donc, quand bien même, donc à travers les makot qui sont l'expression de la sanction, en fait, c'est C'est la rigueur qui s'exprime à travers le schéma Vaya. Mais cette sanction-là, elle est mesurée, elle est limitée, elle se fait de manière progressive. Akadosh Baruch Hu, quand bien même serait-il dans l'obligation, entre guillemets, de sanctionner, il sanctionne avec mesure. Et ça, Pharaon ne le saisit pas, ne le comprend pas. Il ne comprend pas que Dieu, Tout-Puissant, n'est pas capable, entre guillemets, de l'obliger totalement, d'exprimer sa puissance, sa toute-puissance, et de manière extraordinaire, de telle sorte. Si Akadosh Baruch Hu exprimait sa toute-puissance totale et absolue, le monde n'existerait pas. Il n'y aurait aucune place qui serait faite à l'homme. Donc, pour que l'homme existe, il faut qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, se mette en retrait. Et quand bien même exprimerait-il sa présence ? Alors, il exprime avec mesure pour faire une place à l'homme, pour que l'homme existe. Et ça, Pharaon ne le comprend pas, ne le saisit pas, n'arrive pas à l'assimiler. Et il prend ça pour une faiblesse. Dans son concept, Dieu Tout-Puissant, il exprime sa volonté de manière totale et absolue en écrasant l'homme. Et ce concept de Havaya, de bonté, de mesure, de limite, que Dieu se met une limite à l'expression de sa puissance, de telle sorte de laisser une place à la créature. Ça, Pharaon n'arrive pas. Et c'est ça le concept de Irba de Tiet Libo. J'ai alourdi son cœur. Le lève étant, on attribue au lève la compréhension, la kavana, l'idée de maîtriser le savoir et l'intelligence du discernement. Afin, les ma'an chiti ototai elle, bekirbo. Alors, il y a dans le Shem Elohim tout un processus, un concept qui est que le Shem Elohim est formé de deux particules. Le Shem Elohim s'écrit Aleph Lamed He Yod Mem. Alors, si on coupe le mot en deux, on a Elé Mi. Elé, et à la fin, il y a Yud Mem. Yud Mem, ça fait Mi, valeur numérique 50. Elé, valeur numérique 36. Il y a ici, 50 fait référence à la Bina. Nun Sha'are Bina, c'est la matrice qui contient les 50 portes de la connaissance absolue. Et elle est, c'est 6 fois 6. Donc la matrice va donner naissance à un concept physique. Le corps. Le corps est formé de. L'espace est formé de 6 côtés. Et chaque côté est lui-même formé de 6. Donc c'est ça le sens de elle est. Maintenant, c'est le elle est en question, c'est l'espace de la création. Alors. Pharaon veut fracturer le Shem Elohim de sorte qu'il puisse le maîtriser. Il veut fracturer, diviser le Shem Elohim de sorte qu'il met d'un côté le Mi et de l'autre côté le Elé. Alors c'est ce que nous disons, le Zohar nous invite à méditer sur cela quand nous disons le schéma. Donc le schéma Israël, nous dit le Zohar dans les Tikkunim, il dit que signifie schéma, entendre, adhérer, comprendre, qu'est-ce que nous devons comprendre ? Alors il dit schéma, c'est l'acronyme du mot Seu Marom Einechem, levez vos yeux vers les cieux, vers les hauteurs. Et le pasouk de Isaïe poursuit et dit Ur'u mi bara ele. Et vous devez constater, voir, observer qui a créé ceci, cela. Elle est mi bara elle. Ça, c'est pas une question mi bara elle. Ou mi bara elle. Que mi a créé elle. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une séparation entre l'espace de la création, le elle, et celui et la matrice dans laquelle ce elle s'est formé, qui est le mi. Il faut les relier. Et tout le travail des Makot, c'est justement de relier ces deux éléments, de faire en sorte que le Elé la constatation, c'est-à-dire c'est le démonstratif, c'est ce que nous constatons ici-bas, n'est pas indépendant, n'est pas venu de nulle part. Il est la conséquence, il est relié au mi. Le mi étant la matrice, et la matrice faisant référence à la bina. Et la source de la bina, c'est le schéma vaya. Donc c'est ça l'idée qui est mentionnée ici. Bnema anchiti ototai. Ototai, c'est les prodiges, mais ça signifie aussi les lettres. Oti otai, on peut écrire oti otai. Les lettres, mes lettres. Les lettres de quoi? De mon schéma vaya. Donc à travers Chéti, de placer. Ulma'an tesaper. Alors le pasuk poursuit. Ulma'an tesaper be'ozne bincha ou bin mincha et asher, afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils. C'est-à-dire qu'il s'adresse à nous. Donc quand on constate cela, on prend conscience de cela, on assimile cela, alors on doit raconter cela aux oreilles. Les oreilles fait référence, le mot oreille fait référence à l'équilibre, la compréhension parfaite. C'est-à-dire que quand nous transmettons la émouna, ce n'est pas une histoire qu'on raconte, c'est une réalité que l'on fait percevoir. Le concept de... C'est l'équilibre de la personne. C'est-à-dire que le savoir pénètre dans la conscience de l'enfant ou du disciple et s'installe. C'est ça le sens, ça fait référence à l'équilibre Moznaïm. C'est cette idée-là qui est marquée. Et Asher et Alalti be Mitzrayim. Et Alalti, c'est-à-dire que c'est en nous disant que Akadosh Baruch Hu, il est El Nora Alila. Il est le redoutable de. En quoi est-il redoutable? C'est que tout ce qui se passe ne se passe que du fait de sa volonté, que rien ne peut se faire en dehors de lui. Vidatem. Et c'est seulement alors que vous saurez, vous, qui Ani Hashem. Donc on doit assimiler ce concept-là, qui Ani Hashem. Et ça, c'est le dévoilement de la conduite surnaturelle de Akadosh Baruch Hu, qui s'adresse uniquement à Israël. À Israël, il est Am Segula. D'ailleurs, quand nous disons Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, dans la conscience simple du simple juif, il dit quoi? Et les gens ne sont pas très, très érudits, ne savent pas ce qu'ils disent. Mais en fait, si on interroge quelqu'un dans son inconscient, qu'est-ce qu'il proclame quand il dit Shema Israël? Il proclame qu'il est juif. C'est une déclaration qu'il proclame, qu'il déclare qu'il est juif. Mais non, c'est quoi être juif? C'est compliqué. C'est quoi Dieu, etc. Tout ça, c'est compliqué pour lui. Mais dans le fond, il déclare qu'il est juif. Qu'est-ce que c'est être juif? C'est s'attacher à Ani Hashem. Hashem Avaya Baruch Hu. C'est celui qui fait qui relie la dimension de l'espace du créé avec sa source. C'est ça le sens profond des Makot, et c'est ça ce qui se dévoile à travers la sortie d'Égypte. C'est la naissance de ceux qui vont proclamer Shema Israël tout au long de leur existence. Ce qui signifie qu'ils sont liés à Dieu en direct, sans avoir besoin de passer par aucun intermédiaire. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.